Dans un cimetière. Une grande pierre tombale portait l'épitaphe suivante. Passant, réfléchis et arrête-toi. Tu es là où j'étais moi, où maintenant je suis. Bientôt tu y seras aussi. Prépare-toi donc à disparaître, car un jour, avec moi, tu vas être. Mais une main anonyme avait tracé à la suite de ces vers. Mais où te trouves-tu donc? Avec Dieu ou avec le démon? Cela fait réfléchir, ne trouvez-vous pas? Un jour, nous mourrons. Cela est aussi certain que 2 et 2 font 4. Ce qu'il est important de savoir, c'est si nous avons vécu pour mourir ou si, au contraire, nous serons morts parce que nous avons vécu. Dans l'Évangile, selon Matthieu, Jésus répond à Satan, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ces mêmes paroles avaient été prononcées par Moïse bien des siècles auparavant, alors qu'il allait bientôt mourir. C'était à ce serviteur fidèle que Dieu avait annoncé la venue d'un autre grand prophète. Il annonce donc au peuple réuni, « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. » L'Éternel me dit, « Je leur susciterai du milieu de leurs frères, un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et leur dira tout ce que je lui commanderai. » Nous voyons donc que, de tout temps, les êtres humains ont senti la nécessité d'être dirigés par un grand principe fondamental. Ne pas vivre de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En s'adressant aux Hébreux, un des écrivains du Nouveau Testament dit, « Si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ?» Avez-vous jamais pris le temps de penser à ce que serait la vie si l'homme ne vivait uniquement que grâce à une nourriture matérielle? Telle n'a jamais été la volonté de Dieu. Dès le commencement de la création, il a toujours désiré que l'être humain puisse vivre sur un plan bien plus élevé. Les bêtes des champs, les oiseaux qui évoluent dans l'air et les poissons des mers ne vivent que de nourriture temporelle. Mais l'homme est bien plus qu'un animal, car il est doté d'une âme. Il peut se mettre en communication avec son Dieu. Il peut également se nourrir avec des aliments spirituels qui lui sont donnés par son Créateur. L'homme, lui, vit pour ne mourir que dans la chair et revivre dans l'autre, dans l'au-delà. Il vit pour ressusciter. L'homme est la plus spéciale de toutes les créatures faites par Dieu, car il a reçu la domination et l'autorité sur tous les êtres vivants de la terre. Il doit cependant se souvenir d'une chose. Que lui-même est et doit rester sujet à l'autorité de Dieu. L'homme doit vivre de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel et non penser qu'il est capable de se passer de celui qui, tout au long des pages du livre, lui répète « La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. » De nos jours, on essaie trop souvent de vivre de pain seulement, alors qu'en réalité, on devrait toujours avoir faim d'une autre espèce de nourriture qui est, elle, spirituelle et qui seule peut rassasier réellement en donnant une force qui jamais ne faiblit et qui est l'espérance. Celui qui cherche à se passer de la volonté bienfaisante de Dieu pour vivre uniquement selon la matière n'est qu'un être allant à la dérive, comme un navire privé de boussole ou de gouvernail. Comme lui, il ne sait plus dans quelle direction il va. Il ne peut plus obtenir la paix, la joie et le bonheur qui doivent régner dans son cœur et qui sont pourtant essentiels à son équilibre mental, moral et spirituel. On dit souvent qu'un bon exemple vaut 10 démonstrations. Voyons ensemble l'histoire de 2 vies. L'une nourrie de pain seulement et l'autre basée sur tout ce qui sort de la bouche de Dieu. La première est celle d'un prince, héritier de la couronne d'un royaume d'Orient, et qui possède de grandes richesses. Son père, être orgueilleux mais néanmoins rempli d'amour, l'a élevé et instruit dans le but de régner un jour sur Israël. Quand il a 19 ans, il est couronné roi et revêt une autorité de gloire et une auréole de puissance. Il est maintenant le roi Salomon. Dès son intronisation, il se tourne vers Dieu, lui offre de nombreux sacrifices et le prie sans cesse. L'Éternel lui apparaît alors et lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Écoutons sa réponse empreinte de sagesse, d'honnêteté et de noblesse. « Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand ?» Cela lui fut accordé. Mais de plus, Dieu déclara, « Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en ont jamais possédé aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun après toi. » Salomon vécut durant de longues années, mais il ne tarda cependant pas à baser son existence sur le pain seulement. Et à partir de ce moment, il devint un mort vivant. Il épousa des femmes étrangères qui éloignèrent son cœur du Dieu de ses pères, et bientôt chacun de ses actes fut guidé par le seul souci de satisfaire les désirs de la chair, autrement dit, de vivre de pain seulement. Écoutons-le se parler à lui-même. J'ai exécuté de grands ouvrages. Je me bâtis des maisons. Je me plantai des vignes. Je me fis des jardins et des vergers. Je m'amassai de l'argent et de l'or. Je me procurai des chanteurs et des chanteuses, des femmes en grand nombre. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Cela pouvait-il réellement s'appeler vivre? Vous direz peut-être, bien sûr, c'est vivre. Et comment? Quelle belle vie! Permettez-moi de vous dire que si telle vient d'être votre réaction, vous vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Une telle existence n'est pas la vie. Non, c'est une mort éternelle. Le roi Salomon était pauvre, quoique riche, parce qu'il pouvait se payer tout ce que son cœur désirait. Il nous dit qu'il s'était attaché à la folie jusqu'à ce qu'il visse ce qu'il était bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux pendant le nombre des jours de leur vie. Les vapeurs de l'alcool, le lucre et la recherche du plaisir du monde avaient attiré vers lui la mort spirituelle, la pire des morts. Peu avant son décès, alors qu'il était brisé et pauvre en esprit, il annonce à qui veut l'entendre sur un ton désabusé et misérable, « J'ai vu tout ce qui se fait sur le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. » Laissez-moi vous répéter cela, « Tout est vanité et poursuite du vent. » Écoutez également ce que ce grand roi tire comme conclusion de sa vie. « Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Mes chers amis, je suis certain que vous réalisez comme Salomon l'immense vanité des choses terrestres. Vivez-vous selon toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel? Ou avez-vous également cessé de vivre? Essayez-vous de vivre de pain seulement, sans vous préoccuper de Dieu? Salomon a possédé et a joui de tout ce que la terre pouvait lui offrir dans cette vie. Il a compris que la misère, le désespoir et la mort éternelle étaient les inévitables conséquences d'une telle existence. C'est cela, vivre de pain seulement. Mais vous, le comprenez-vous également? Mais parlons maintenant du deuxième exemple.
C'était quelqu'un. Un homme qui est né dans un petit village, le fils d'une paysanne. Il grandit dans un autre petit village et jusqu'à 30 ans, travailla comme charpentier. Après cela, il prêcha tout en voyageant pendant 3 ans. Mais il ne s'éloigna jamais plus de 350 kilomètres du lieu de sa naissance. Ses voyages, il les faisait généralement à pied. Il ne s'occupa jamais de politique, n'écrit jamais aucun livre. Il n'acheta jamais de maison, ni jamais de famille. Il n'alla jamais à l'université, ne mit jamais le pied dans une grande ville. Et pourtant, oui, c'était quelqu'un. Et bien qu'il n'accomplit jamais aucune des choses qui vont généralement de pair avec la grandeur, c'était quelqu'un. Il ne fut jamais recommandé que par lui-même. n'eut jamais rien à faire avec le monde, sinon pour accomplir un but divin. Et bien qu'étant encore un homme jeune, l'opinion publique se dressa contre lui. La plupart de ses amis le fuirent. L'un le renia, l'autre le trahit et le livra à ses ennemis. Il eut alors à subir un procès grotesque. Il fut cloué sur une croix entre deux bandits. Et même pendant son agonie, les artisans de son supplice jouèrent au dé la seule chose qu'il ait jamais possédée. C'était ses vêtements. Après sa mort, on le descendit de la croix et on mit sa dépouille dans une tombe qui appartenait à quelqu'un d'autre. C'était quelqu'un. Depuis, 19 longs siècles ont passé. Aujourd'hui, il est toujours la clé de voûte de la race humaine, la colonne supportant la destinée de l'homme. Et je n'exprime qu'une vérité fondamentale en disant que toutes les armées qui ont jamais foulé la terre, toutes les flottes qui ont jamais sillonné les océans, tous les corps législatifs qui ont jamais siégé et tous les rois qui ont jamais régné, que tout cela mis ensemble n'a pas influencé aussi puissamment l'existence de l'être humain que cette seule vie-là. C'était quelqu'un. Oh oui, c'était quelqu'un. Nous arrivons au terme de notre entretien, et je devrais tirer une conclusion. Mais au fond, pourquoi ne la tireriez-vous pas vous-même? Oui, vous-même. Vous voyez parfaitement la différence qui existe entre ces deux genres d'existence. Et je suis persuadé que vous voulez, à partir d'aujourd'hui, vous nourrir de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Car vous ne voulez pas vivre pour mourir. Ce programme vous était offert par Méditation biblique, au micro, Jacques Marchal. Faites-moi part de vos idées, de vos suggestions sur ce que vous venez d'entendre. Je vous répondrai personnellement. Également vous envoyer le texte intégral de cette causerie sans aucun engagement de votre part. Il suffit d'écrire à Jacques Marchal, 6 rue Étienne Falconet, 3130 Palma. Je répète, Jacques Marchal, 6 rue Étienne Falconet, 3130 Palma. Ni à une organisation centrale, ni à une secte quelconque. Notre unique règle de foi, et surtout de pratique, est le Nouveau Testament. Notre unique chef, Jésus-Christ, seul, ses enseignements et ceux des apôtres font autorité dans nos vies. Nous parlons de ce que la Bible dit et nous sommes silencieux à propos de ce qu'elle nous enseigne.